tous, bienvenue sur Backseat. Bonsoir, bonsoir le public. Très heureux de vous retrouver dans cette émission exceptionnelle, chers amis. Comme toutes les semaines, on va parler d'actualité, on va parler de politique. Une actualité particulièrement chargée cette semaine et donc une émission spéciale pour parler du conflit en Israël et en Palestine. Je ne vais pas en parler tout seul puisque je suis avec mes chroniqueurs et chroniqueuses. Je suis avec Sacha. Salut Sacha.
Salut Jean.
Tu vas bien ?
Ça va et toi ?
Bah ouais, écoute Sacha, tu es journaliste pour France Télévisions.
Absolument.
Et je crois que tu étais lundi dernier à un événement pour l'indépendance des médias.
Exactement, à laquelle tu as accepté de venir présenter un débat d'ailleurs. C'était la nuit de l'indépendance qui a été organisée par les anciens journalistes du JDD. Voilà, c'était une petite soirée très sympathique où on a vu des chanteurs, des chanteuses, des humoristes, des comédiens lire des textes importants. Il y a eu des petits débats, voilà, entre journalistes de rédaction qui avaient des modèles de dirigeance entre guillemets, ouais, très différents de ce qui se fait dans les médias mainstream possédés par un actionnaire. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Et il y a eu un débat avec les... une sorte de débat avec les trois députés qui ont porté la PPL.
Animée par Julia Cagé. C'était génial, parce que Julia Cagé, si tu veux, elle est là, niveau, tu vois.
Ouais,
Députés, bon, voilà, on les aime bien, mais...
Ils ont tous été un peu chahutés par le public, malheureusement. Julia Cagé aussi, d'ailleurs, malheureusement, mais voilà.
C'était très chouette. Hein, mettre des députés avec des chercheurs, c'est cruel.
C'est cruel pour les députés. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est le genre de truc, tu te poses la question de savoir si ça a du sens de continuer à le faire, mais on continue quand même à le faire, je sais pas, on doit être un peu maso pour eux, j'en sais rien. On est aussi avec Usul. Salut Usul.
Bonsoir.
Ça fait plaisir de te retrouver, Usul.
Oui.
Tu es chroniqueur sur Blast notamment. Tu es chroniqueur sur Backseat
aussi.
Et sur Blast, en l'occurrence, tu as une nouvelle émission qui s'appelle Rhinocéros.
Exactement.
Où tous les dimanches, tu proposes une analyse média.
Vous avez la ref?
Alors, il l'a donné il y a 15 jours quand il est venu sur Backseat.
C'est pour ça que je demande.
Ah non, mais c'est bon, je l'ai. Non, c'est bon, je l'ai, Rhinocéros.
Tu peux la redonner. C'est pour dire que tout le monde, ça devient des nazis, là. Donc, des rhinocéros. Donc, nous, on va chroniquer cette métamorphose de notre paysage médiatique où tout le monde se transforme en Asie, quoi. Plus ou moins.
Comme dans la pièce
comme
de Marcel Aimé.
La pièce de Ionesco.
Voilà, de Ionesco, pas de Marcel Aimé, pas
sujets,
du tout.
On en a fait un sur Bolloré, contre complément d'enquête.
Et donc celui de dimanche dernier portait sur Stéphane Plaza.
Et oui.
Et sur comment est-ce que le groupe M6 réagit. Et c'est assez intéressant.
Les défenses de ce système qui se défend, parce qu'en fait, si Plaza tombe... Ruquier, il perd un chroniqueur. M6 perd beaucoup de pognon parce qu'ils ont investi dans les agences Stéphane Plaza que vous voyez peut-être dans votre ville. Ruquier, même mieux que ça, il a fait une pièce de théâtre qui a fait 300 représentations, je le dis pas dans la chronique, mais où Plaza joue le rôle principal, écrit quasiment juste pour lui. Voilà, il y a des solidarités très fortes qui font que si les gens tombent pas comme ça, même avec des accusations très graves, parce que dans le cas de Stéphane Plaza, c'est quand même très grave, il y a des solidarités en fait qui expliquent ça.
Qu'est-ce que je voulais dire?
Je voulais faire une joke sur le fait que Usul avait désormais plus de cheveux que moi, mais en fait, je me rends compte que j'ai toujours plus de cheveux que toi. Je suis un peu déçu.
Et surtout, ils sont plus bouclés, ouais. Donc peut-être si on les tire, ils vont plus loin.
Et surtout que les commentaires sur le physique et les cheveux sont interdits, tu le sais, c'est la règle dans le chat. Chers amis, je vous propose qu'on. Alors avant de vous parler des cheveux de la semaine, quand même, je voudrais rappeler un petit truc important sur Backseat, c'est que c'est une émission qui n'est rendue possible que grâce à vous, grâce à votre participation. Chers amis, merci pour vos dons, merci pour votre participation au financement de l'émission. Il ne nous reste que de quelques 200 euros et quelques pour remplir le prochain palier de dons de l'émission. Donc rendez-vous sur KissKissBankBank et sur KissKissBankBank, vous aurez la possibilité de vous abonner à Backseat. Ça vous donnera accès à beaucoup de bonus et des trucs en plus que vous découvrirez sur la page KissKissBankBank. Et c'est grâce à vos dons qu'on peut continuer à faire cette émission. C'est grâce aussi au financement du CNC, on croise les doigts pour l'avoir à nouveau cette année. Et c'est grâce aussi à la participation financière de nos partenaires lorsqu'ils viennent faire des before dans l'émission. Mais quoi qu'il en soit, sans vous, on ne pourrait pas. Donc merci pour vos dons, merci pour votre participation. Et regardez la barre de dons qui est là. J'arrive pas à lire, mais je crois que c'est 160 euros. On arrive au prochain palier et vous débloquez ce bonus-là. Donc j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous. Chers amis, je vous propose qu'on parle des sujets de la semaine. C'est parti pour les sujets de la semaine. Merci le public, vous êtes formidable.
Ah, mais plus tu fais des émissions longues, plus le public il réagit plus. Il, là, il...
Non, non, mais il regarde. Il a bien raison. Je crois que les gens chez eux, ils subissent. Alors, à propos de subir, figurez-vous qu'à 20h, il va se passer quelque chose de particulier dans cette émission. Priorité au direct, le président de la République, Emmanuel Macron, a prévu de faire une allocution diffusée en direct sur Twitch. Mais j'ai autorisé la diffusion également à la télévision pour que ce soit entendu par le plus de gens possible. Ce sera donc là, on va faire un truc qu'on n'a jamais fait dans Backseat, mais on va le faire ensemble. C'est qu'on va regarder.
Si, et c'est vrai, t'as payé
Non, j'ai pas payé.
Ah, t'as pas payé. Ok.
Mais ça, c'est mes problèmes juridiques avec
que j'en passe. On va regarder Macron.
On va regarder Macron et on le débriefera rapidement ensemble en plateau. Mais je suis pas sûr qu'il apporte beaucoup de choses intéressantes et nouvelles qu'on ne sache pas déjà.
Mais oui, après les mots, voilà, on va chipoter sur les mots.
Alors on va en parler parce que justement,
Comme les informés de France Info et voilà.
Dans les sujets de cette semaine, il y a quand même une intervention. Il y a quand même un sujet très particulier. C'est la sidération dont on a tous été pris lorsque le Hamas, partant de Gaza, a décidé de mener des attaques terroristes de très grande ampleur sur le territoire israélien, s'en prenant à des civils, à des jeunes qui faisaient la fête, à des familles, à des femmes, à des enfants, à des bébés également. À l'heure où je vous parle, alors c'est toujours pareil, on est dans ce moment, mais c'est ça dont on va parler.
Ah oui, on a 10 minutes avant qu'il parle, quoi.
Mais on en reparlera aussi après. Ouais, en fait, t'inquiète. Okay. Non, t'inquiète. Ouais. Le bilan en l'état actuel des choses, on parle de 1200 morts. Morts côté israélien, très majoritairement des civils, et 1350 morts à Gaza, puisque l'armée israélienne a répliqué, on en parlera, et plus de 1500 combattants du Hamas retrouvés morts côté israélien. Donc ce qui est en train de se passer est une échelle absolument terrifiante dans l'horreur, et c'est justement ça dont on voulait commencer à discuter sur ce plateau avant que dans la deuxième partie de l'émission on reçoive en invité cette semaine, je vous l'ai dit, il n'y aura pas d'invité politique cette semaine, on va recevoir des personnalités qui reviennent pour certaines du territoire palestinien et du territoire israélien, des personnes qui ont pris position dans le débat public sur le sujet parce qu'on veut avoir cet échange, donc pas de politique sur le plateau cette semaine, on l'assume complètement, mais avant ça, tous les trois, on voulait avoir cette discussion justement sur cette difficulté qu'on a à faire ce backseat cette semaine, parce que c'est pas un backseat facile, les amis. Quand on a préparé l'émission, quand on s'est vu en réunion, on a pesé la responsabilité qui est la nôtre. On sait qu'on a une émission attendue, on sait que vous êtes nombreuses et nombreux à vouloir voir comment Backseat va traiter cette info. Il y a un niveau de tension sur le terrain qui est humain et physique, il y a un niveau de tension dans les esprits d'émotion qui est saturant, et il y a un niveau de tension dans les échanges, notamment sur Internet, qui est très particulier. Donc, c'est pas évident quand on est backseat de faire ça, et c'est la première discussion qu'on voulait avoir. Comment est-ce que vous l'avez ressenti, cet effet de sidération qui arrive après un attentat comme celui-là? Comment vous l'avez vécu, vous?
Difficilement, je pense que c'est le minimum qu'on puisse dire. C'est ça, sidération pour le nombre de victimes des deux côtés, sidération par la nature des cibles, sidération puisque moi j'ai de la famille là-bas, sidération parce qu'il y a une cacophonie en France sur le sujet depuis 5 jours qui est pas du tout à la hauteur de l'événement. Sidération parce que on sait que ça va finir par un drame humain. Et un bilan comptable qui sera terrifiant, que ce soit encore une fois côté israélien et côté Palestine. Sidération que ce qu'on considère comme l'une des meilleures armées du monde ait pu passer à côté de ça.
Oui, surprise.
Et voilà. Et sidération parce qu'on a une deuxième guerre qui s'ouvre à 5000 km de la France, alors que il y a toujours un conflit en Ukraine aussi qu'il ne faut pas oublier. Et donc le climat est ultra anxiogène, que ce soit l'air ambiant, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télévision. Si je peux vous recommander une chose, c'est de dégager de Twitter, vraiment.
Oui, mais d'ailleurs, c'est intéressant quand on parle des réseaux sociaux, je sais pas, on parle tout le temps les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'en fait, on parle de Twitter. De quel réseau social
on
parle?
Parce qu'on est dessus.
Je
parle même sur les plateaux, etc. Quand on dit sur les réseaux, il se dit, mais en fait, mais de quoi on parle?
Facebook, on sait qu'il y a plein de groupes aussi où
il y a des groupes, c'est vrai, il y a des boucles WhatsApp,
je pense qu'il y a des boucles Telegram. Moi, je suis sur pas mal de boucles WhatsApp d'Israéliens, justement, qui font passer des infos qui, soi-disant, sont les plus vérifiées possibles et viennent du pouvoir. Il y a TikTok, il y a tout ça. Faites attention, déconnectez si vous le pouvez, parce qu'être en boucle là-dessus, je pense que même mentalement, pour nous, c'est pas une bonne chose. C'est extrêmement anxiogène. Ouais. Donc voilà, c'est loin, mais c'est proche en même temps. Donc voilà.
Et toi, Usul, est-ce que tu as eu le sentiment de revivre ces mêmes effets de sidération qu'on peut avoir quand on a connu les attentats en France en 2015 ou l'assassinat d'Arnaud Beltrame ou Saint-Étienne-du-Rouvray, pour ne parler complètement français?
Oui. Non, bah, de toute façon, c'est vrai que ça s'inscrit quand même dans une continuité. Moi, je prends le spectre français vraiment.
Ouais, français, ouais, vas-y.
Moi, je me souviens évidemment de ma journée sur. Là, évidemment, la journée de samedi a été relativement interrompue par ça, vendredi. Enfin, le dimanche, évidemment, regarder les conséquences, etc. Et très, très dur de penser à autre chose, même. C'est-à-dire qu'on est, absolument happé par
vrai.
L'événement. Quand il se passe quelque chose aussi de cette ampleur historique, de la même manière que quand, je ne sais pas, l'attaque du Capitole, voilà, je vois ça arriver, il est 10 heures du soir, je coupe tout et je mets les chaînes info comme un débile, quoi. Et il y a un truc, voilà, cet événement dont tu sens que, comme la formule consacrée le dit, il y a un avant et un après. Il y a un point de, il y a un tournant, un point de bascule. Et on l'a vu vraiment dans le commentariat médiatique, quoi. Il s'agissait de nous dire, regardez, c'est la même chose que les attentats que nous avons vécu. Voilà, il y a une.
C'est d'ailleurs ce que j'ai fait en introduisant. T'as remarqué
Voilà, il y a une symétrie.
C'est le 11 septembre d'Israël.
Ouais. Voilà. Oui, mais alors ça, c'est.
Ça, c'est la parole de Benjamin Netanyahou lui-même.
Et bien justement, Benjamin Netanyahou qui a réagi très très vite aussi en faisant une vidéo en anglais pour nous donner la trame de la manière dont on devait interpréter le truc, qui a été la trame suivie par tous les médias français derrière.
De la manière que lui a d'interpréter le truc. Après, libre aux médias de choisir de le faire ou pas.
Non, parce que dans la société israélienne, le débat est beaucoup plus complexe. Il a donné la manière dont nous. L'étranger, il l'a fait en anglais, dont nous, à l'étranger, on devait comprendre ça. Il nous l'a dit, regardez, c'est notre 11 septembre, c'est... d'autres ont dit le Bataclan, etc. Et c'est vrai qu'il y a des petites similitudes qui font qu'on ne peut que être choqué quand on voit le festival qui rappelle, nous, le concert de rock, etc. Donc les parallèles sont allés très très vite, et donc la grille de lecture s'est déroulée d'elle-même et élégamment alignée sur ce que Netanyahou nous avait dit de comprendre de l'événement. Vraiment. Donc moi, je sais pas jusqu'où on va dans la discussion là.
On continue à discuter ça. Je parlais de l'effet de sidération.
Mais ma sidération, dans un premier temps évidemment c'est l'événement. Tu te dis c'est horrible, etc. Et puis surtout c'est historique, c'est-à-dire que je sur le moment même je savais que merde, j'ai pas vu ça encore là, une attaque de cette ampleur, etc.
Donc
on a quand même ce truc là.
Comptablement parlant, c'est la première fois qu'autant de Juifs sont tués
depuis
la Shoah. Enfin, juste pour remettre un peu les choses en perspective, voilà.
D'ailleurs, tu as mentionné le fait que tu avais des proches et de la famille là-bas. Est-ce que tout le monde...
Tout va bien, okay. ils sont à Tel Aviv, safe, et puis voilà, c'est juste que tous les jours, il y a des enterrements, tous les jours, il y a des nouvelles de gens qui ont été blessés.
Il y a un effet d'échelle qui a été donné récemment qui est...
Mais pareil, moi, je trouve
que... Quand on regarde le nombre de morts, c'est l'équivalent de plusieurs... Pas loin de plus de 10 000 Français.
Mais pareil, c'est beaucoup dans les éléments de communication aussi, ça, c'est-à-dire que on le fait pas nécessairement pour tous les conflits, on le fait pas nécessairement pour tous les accidents. Là, il y a un truc de, en fait, l'idée est la même. L'idée est de dire ce que nous vivons, ce déchirement là qu'on vit, cette tragédie. Il faut absolument que vous soyez impliqués dedans et que derrière, on aboutisse à cette position qui est le soutien absolu parce que vous êtes comme nous sommes comme vous. Regardez et donc l'ennemi est le même. C'est ça le cadrage que ça a permis de faire. L'ennemi est le même.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, encore une fois,
cette empathie et ce premier geste, ce premier élan, il est normal, il est humain, parce que en effet, le festival de musique punk et techno,
ouais.
Où en effet, tu te dis merde, c'est comme le Bataclan, c'est-à-dire c'était des jeunes plutôt progressistes en plus qui
sont plutôt ciblés. Oui, c'est même des militants pro-palestiniens d'ailleurs qui ont été assassinés.
Bien sûr, donc les parallèles arrivent tout de suite, mais je trouve que on a tout de suite limité la ce qui a été terrible en fait, et ça s'est vu dès le lendemain. On a limité la réflexion à ça. Finito, il y a pas d'avant, il y a pas d'après. L'événement commence là. Il nous rappelle ce que nous on a vécu, et donc on doit se positionner comme tel. Et
moi, je l'ai pas vécu comme ça pour le coup. J'ai pas l'impression qu'on m'ait imposé une grille de lecture ou qu'on m'ait dit que ça commençait à un certain moment ou à un autre. J'ai effectivement entendu les éléments de langage. Évidemment, de l'armée de Tsahal, du Premier ministre Benjamin Netanyahou. J'ai entendu aussi des sons qui n'analysaient pas ça de la même manière. Enfin, j'ai entendu un immense brouhaha. Évidemment, rempli d'émotions, d'énormément d'émotions, voire même d'une injonction à l'émotion, qui moi pour le coup m'a paru étrange, parce qu'il se trouve que c'est vraiment pas pour ramener à ma petite échelle de ma petite gueule dont tout le monde se fout, et vous avez bien raison. J'étais tranquille en week-end, pas à Paris, et j'étais en train de prendre des photos de canards et ça m'allait très bien, et je me suis fait prendre la veste sur Twitter parce que j'avais pas exprimé d'émotion. Et je crois que c'est le moment où j'ai compris qu'il se passait quelque chose de vraiment gravissime. J'avais vu passer, j'étais en week-end, enfin je pensais à autre chose, j'avais vu passer quelques tweets sur Israël, attaque, bon d'accord, enfin j'avais pas pris d'attention.
Et quand je dis on est happé, c'est y compris là, on est happé par les autres qui nous disent il faut que tu...
Et justement voilà, et là je me suis fait prendre par le col par des gens qui m'ont dit que c'était absolument intolérable que je pose des photos de petits canards alors qu'il est en train de se passer quelque chose de gravissime. Du coup j'ai culpabilisé, je me suis dit merde, est-ce que je suis en train de passer à côté d'un événement majeur? Quelques heures plus tard, j'ai compris que j'étais en train de passer à côté d'un événement majeur, mais que du coup, il est attendu de ma part que je prenne la parole.
Enfin, c'est qu'on attend de toi que tu prennes la
parole.
Puis alors
là, je pose la question, mais je suis qui en fait? Je suis un streamer, je représente pas ma communauté. D'ailleurs, j'ai toujours dit, je parle pas en votre nom. Mais du coup, ma parole est attendue, mais par qui? Mais pour dire quoi? Ah, du coup, mon silence est interprété. Et donc, cet effet de sidération, moi, je l'ai vécu aussi comme ça, sur le côté. Faites hyper gaffe.
Oh là là, il y a le président.
Ah bah ça y est, ça commence. Ouais, on écoute
Macron. Chers compatriotes.
Chopé par le callback.
Voilà, donc c'était le président de la République, Emmanuel Macron, dans une allocution diffusée ce soir, jeudi 12 octobre à 20h précise, une allocation d'une dizaine de minutes qui aurait sans doute pu être plus courte, parce qu'il a dit, il a dit beaucoup de choses, mais qui en fait sont résumables en assez peu de mots, mais peut-être que lui aussi pesait beaucoup ses mots ce soir. Une condamnation sans réserve des actes qui ont touché Israël, la qualification du Hamas comme d'un mouvement terrorisme, le soutien à Israël dans sa réplique, au gouvernement d'Israël en l'occurrence, dans sa réplique, contre les attaques terroristes, un appel à un usage de la force dans la justice, voire dans la justesse. Il a dit force et juste. Bon, forte et juste. Il a fait mention de 17 Français qui sont portés disparus et sans doute retenus en otage, je cite les mots du président de la République. Et il a pris ensuite sur la position sur le conflit de manière un peu plus globale. On a noté un retour à la position un peu plus historique de la France, c'est-à-dire à la recherche de la paix, la garantie de la sécurité des acteurs dans la région, mais le retour de la paix, et le mot paix a été prononcé un certain nombre de fois par le président de la République, semblant montrer peut-être une inflexion dans une position... Non, tu fais non de la tête.
Il y a une tension, il y a vraiment une tension entre deux lignes, mais qui doit, à mon avis, être à l'image de la tension qu'il y a au Quai d'Orsay entre...
Quai d'Orsay, c'est le ministère des Affaires étrangères.
Voilà, entre des hauts fonctionnaires et un réseau de diplomates dont, historiquement, il y a des proximités, il y a une politique particulière de la France dans le monde arabe depuis très longtemps. La France qui a eu des positions singulières. On a entendu dire, ce matin, vous avez entendu Dominique de Villepin sur France Inter, peut-être, qui a essayé...
Qu'est-ce qu'il a dit?
Qu'est-ce qu'il a
rappelé la position historique de la France sur la solution à deux États, sur le garantie de la paix.
Ça. Et en fait, à quoi elle s'oppose cette position historique? Elle s'oppose à ce qu'il a dressé, mine de rien, au début. C'est pour ça qu'il a dû en même temps. Oui. Au début, il a dressé un « eux » et « nous ».
Quand tu dis « il », c'est Emmanuel Macron.
Macron. Macron. Il a dit « les terroristes et nous, les démocraties ». Et il dresse ce parallèle comme ça, comme si ça allait de soi. Et donc là, il dresse un nous et un eux qui divisent clairement, hein, plus que. Qui divisent le monde. Alors, déjà, je sais pas, dans le nous, il y a qui? Il y a l'Europe. L'Europe, il n'y a pas que des démocraties, il n'y a pas que des régimes très, 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 très vertueux au niveau démocratique. On est pote avec Orban, on est pote avec d'autres trucs. Ce n'est pas tellement la démocratie qui nous définit le plus en tant que. Je veux dire. Bref, ne partons pas là-dedans.
J'ai quand même noté un retour, effectivement, à une position un peu plus classique française sur une défense de la paix, quitte à se froisser parfois avec le gouvernement israélien et avec le gouvernement américain.
Pas dans sa première partie.
Dans la première partie, mais je parle bien de la deuxième. Le moment où il a pris la distance, c'est dans la deuxième partie de son discours qu'il a martelé la notion de paix, la recherche d'une solution. Enfin, on est sur un discours plus diplomatique que martial. Quand tu écoutes Benjamin Netanyahou, on est dans du pur martial, mais dans du quasi civilisationnel.
Mais là aussi,
quand
au début.
Au début, oui, mais parce qu'au début, on est dans le moment de l'émotion où Emmanuel Macron rappelle l'émotion, le soutien sans faille aux familles des victimes, à l'horreur qu'on a vécue et tout. Dans la deuxième partie, j'ai eu l'impression de réentendre une forme de Chirac. Alors, ça allait peut-être pas jusqu'à du De Villepin, parce que De Villepin, c'est une version dégénérée du chiracisme. Non, c'est horrible ce que je suis en train de dire, mais Emmanuel Macron, de son côté, j'ai l'impression que la deuxième partie de son discours, à mon avis, ce soir, à Jérusalem, ils sont pas très contents, là, de ce qu'a dit Emmanuel Macron ce soir.
Tu penses ?
Ouais, je pense que qu'est-ce qui nous emmerde encore ces connards de Français avec leur grand principe de droit de l'homme à venir nous faire chier sur une solution à deux États. Je note qu'il ne l'a pas dit, mais à la recherche de la paix et tout. Nous, on est en guerre. Nous, on est là pour. Il faut frapper fort, etc. Moi, j'ai vraiment. J'en sais rien. Écoute, je verrai bien ce qu'en diront les autres. Mais moi, je trouve là à l'écoute de la fin de son discours, en tout cas de la deuxième partie, Qu'on est dans une position française assez classique, quitte à s'engueuler avec Israël si nécessaire.
Et il a remis un peu aussi la France au cœur des négociations en disant on a contacté l'Arabie Saoudite, on a contacté.
Oui. Alors ça, c'est le rôle de la France. Ah, c'est peut-être le moment effectivement où Baxit doit jouer son rôle de pédagogie en rappelant, parce que là je suis en train de dire des trucs comme ça, mais la France a historiquement effectivement un rôle un petit peu particulier au Proche et au Moyen-Orient, qui a longtemps été sous colonisation britannique. Oui. Ça a longtemps été des enjeux qui ont été gérés beaucoup plus à Washington et à Londres qu'à Paris. Mais au fur et à mesure du XXe siècle, la France a tenu une position plus mesurée que la plupart des acteurs du dossier, notamment les acteurs anglo-saxons, États-Unis et Britanniques, main dans la main, avec le gouvernement d'Israël, toujours historiquement soutenu davantage par Londres et par Washington que par Paris. Paris, de son côté, a eu une diplomatie qui a souvent été plus en soutien aux pays arabes. Je dis plus parce que tout ça est évidemment très diplomatique, on n'est pas dans une guerre de tranchées ou dans une opposition franche, mais on se souvient de moments de très forte tension, que ce soit De Gaulle, Mitterrand, Chirac, où il y a eu des moments où ça s'est engueulé assez sévèrement avec Washington et avec, je crois que c'était les accords de Camp David, où ça s'était assez mal passé. Donc voilà, la France a souvent eu une position un petit peu particulière, beaucoup plus à l'appel et à la recherche de la paix. La France défend la solution à deux États, un État palestinien et un État israélien qui travaillent avec une sécurité garantie pour les deux, ce qui n'est pas tout à fait du goût du gouvernement israélien actuellement, Benjamin Netanyahou. Donc voilà, sachez que la France a historiquement une position qui n'est pas alignée sur celle de Washington et sur celle de Londres, ni sur celle du gouvernement israélien. Et qu'en même temps, c'est une position qui n'est pas non plus celle de l'Iran, c'est-à-dire qui est en soutien total au Hamas, qui est totalement antisémite. Enfin bon, vous connaissez l'Iran, quoi. Bref, voilà ce que je voulais dire pour ce côté un petit peu pédago. Je voyais que tu voulais dire quelque chose, Sacha.
Non, pardon, excuse-moi. J'ai failli lâcher un You want me to go back to my plane à un moment, mais c'est tout, quoi.
Ah, Jérusalem, grand moment.
Oui. Jacques Chirac à Jérusalem, voilà.
Usul. Beaucoup de choses, mais je sais pas par où commencer. J'aurais revenir sur le nous et le eux, tu vois. Parce que faire de la politique, c'est...
Ah, sur les terroristes. Tu reviens sur ce qu'a dit Macron.
Oui, mais parce que le « nous » et le « eux », et donc ce truc de... Il a dit qu'il fallait rester unis. Hein. Oui. Faut qu'on soit unis. Donc ça veut dire que dans la société française, on est tous censés... Il a dit, alors j'ai noté le mot « soutien complet » maintenant à Israël.
Il n'a pas dit inconditionnel.
Non, il n'a pas dit inconditionnel, mais on l'a entendu dans la bouche d'autres gens. Et moi, c'est vrai que le mot inconditionnel m'a relativement étonné. Je n'ai même pas un soutien inconditionnel à ce que peut faire mon propre pays. On est d'accord que voilà, il y a plein de situations dans lesquelles tu peux dire voilà, c'est chose qu'on fait, quoi. Donc, soutien inconditionnel à un autre pays, c'est déjà bizarre. Bon, là, c'est marqué soutien complet. Le nous et le eux. Je suis une génération qui est sans doute rentrée en politique au moment du 11 septembre. C'est mes premières années où je milite, etc. C'est un choc. Évidemment, dans ce genre de choc, on ne peut pas penser. Et pourtant, à ce moment-là, on est moins va-t-en-guerre. Hein. On ne dit pas, du coup, ça donne le droit aux États-Unis de taper le plus fort possible. Mais il s'est passé tellement de choses entre-temps. Il s'est passé tellement de choses entre-temps, y compris dans la société française.
Hein. Oui, bien sûr.
Moi, j'ai vécu successivement beaucoup de choses qui relèvent. Alors, on va parler peut-être du RN aussi un petit peu après.
Alors, on va revenir effectivement
là-dessus. Tu peux juste expliquer le nous et le eux, parce que moi, je le vois en tant que...
Nous, les démocraties. Nous, les terroristes.
Nous,
donc, les barbares.
Sacha, toi, t'as entendu quoi, vas-y.
Moi, je vois plus en nous qui n'agissons pas comme des terroristes et comme des barbares, et pas forcément... Enfin, voilà. Et eux, c'est le Hamas.
Ouais, tu penses ouais. Que les gens, ils se disent, eux, c'est le Hamas point barre.
Bah,
ils
c'est les terroristes.
Pas de lien. Ils ont fait le lien avec le Bataclan, qui n'a rien à voir avec l'histoire palestinienne.
Non, mais le procédé est le même.
Ah, donc la mode d'action.
Oui,
mais
là, le mode d'action est le même.
On peut trouver plein d'autres endroits dans le monde où il y a eu des modes d'action similaires.
C'est la condamnation du terrorisme comme méthode.
Voilà, je pense qu'on n'est pas sur un alignement du terrorisme version Bataclan et de ce qu'a fait le Hamas. Non, je ne suis pas sûre.
Je sais pas, parce que j'en ai vu dire c'est notre Bataclan, ou c'est leur Bataclan, ou c'est leur 11 septembre, etc. Donc, moi, le lien que je vois, c'est qu'en face, c'est des Arabes, c'est des terroristes. En fait, c'est un narratif qui chemine dans la société française.
C'est une discussion qu'on va continuer à avoir dans la deuxième partie de l'émission avec nos invités. On a effectivement des réactions qui ont aussi fait polémique, mais on en parlera aussi dans une deuxième partie. Et je suis même pas sûr en fait d'avoir envie de rentrer dans les polémiques un peu
Picro, non, mais c'est sur les conséquences que ça a dans le débat français derrière. Que
et
c'est,
bah, vas-y, conclue là-dessus et ensuite alors, on parlera de la loi, sur, la loi sur le plein emploi qui a été votée.
Je continue sur le débat français et sur comment ça résonne ici. Parce que je rappelle qu'on est dans un pays où, quand il y a un flic qui tue un arabe, il a une cagnotte. Voilà. Donc c'est un contexte aussi dans lequel ça s'inscrit. Si on dit nous, on est tous derrière la répression qui va derrière, enfin la guerre en fait. Maintenant, on est dans la guerre carrément. Donc si on est tous derrière la guerre unanimement, ça veut dire que être uni, être français, c'est être ça. Alors qu'il y a des gens dans ce pays qui ont des vécus familiaux, qui ont des histoires,
qui ont des mémoires qui
difficiles,
sont pas les mêmes.
Différentes, des histoires issues de la colonisation, qui eux bah mine de rien, mais ça leur parle ce qu'ont traversé le peuple, les Palestiniens depuis des décennies et des décennies.
Mais l'un n'empêche pas l'autre.
Et tu ne fais que redire qu'il y a des divergences d'approche de ce qu'est le nous, ce qui en démocratie est en fait assez classique.
Et oui, mais Macron dit c'est non, il y a pas de divergence. Il peut pas y avoir de divergence.
Macron dit bien ce qu'il veut. C'est un homme politique. j'ai le droit de pas être d'accord avec Emmanuel Macron. C'est pas parce que Macron dit un truc que c'est une version je ne sais quelle officielle qui doit s'imposer à moi. Il a effectivement sa grille de lecture du monde qui n'est pas la mienne. Il dit effectivement il est sur.
Moi pour moi il rassemble pas là. Là il divise.
Ah c'est ça que tu voulais dire.
D'accord. C'est ça ce que je veux dire.
D'accord,
c'est
okay,
que l'effet sur la société française aujourd'hui. C'est de diviser, de dire, alors on n'importe pas. Vous importez ici, manifestement, parce que vous imposez du coup le narratif, vous imposez le fait qu'il faille absolument dire ce mot-là à ce moment-là, machin, sinon vous êtes exclu du champ républicain. On ne peut pas réfléchir, là, il faut être saisi par l'émotion et dire ça, et on est tous unis derrière un soutien donc complet. Bon, ça ne rassemble pas ça. Ça divise, ça importe. Ça importe des tensions dont, je veux dire, on ne veut pas. On n'en veut pas là-bas non plus de ces tensions-là. Je veux dire, la paix, c'est un processus, tu veux.
Mais, ah non, mais bien sûr, ça
mais chez nous aussi, on est un pays où c'est tendu. C'est pas pour rien que Macron se dit, merde, dans les banlieues, comment ça va être pris, cette histoire?
Mais c'est pour ça qu'il essaye de raccrocher peut-être maladroitement
dit,
les trucs aux branches.
Attention, pas un truc antisémite, hein. Attention, hein. Et je suis évidemment d'accord, pas un truc antisémite. Rima Hassan, qui était sur le plateau de C'est ce soir il y a quelques temps, qui est maintenant une des figures des exilés palestiniens en France, l'a dit, pour les manifs, pas un truc antisémite. On n'est pas là pour ça.
Oui.
C'est pas le propos, puis surtout, ça doit pas être le fond de la lutte. Par contre, j'ai entendu personne dire, attention aussi peut-être au racisme sur les Arabes, attention à l'islamophobie, ça peut déclencher.
Ça dépend qui t'écoute, moi je l'ai beaucoup entendu, mais ça dépend qui tu écoutes. Effectivement, peut-être pas les gens au pouvoir, parce que ça ne t'aura pas échappé que les gens au pouvoir, ceux qui ont remporté les élections en 2022,
mais là, la tension,
c'est pas la France insoumise.
Moi
je suis pas étonné d'entendre Emmanuel Macron défendre une position macroniste.
Et après, si vous, il faut aussi s'informer correctement, c'est-à-dire que moi, de ce que je regarde depuis le début, depuis samedi, je n'ai pas entendu à un moment quelqu'un faire une corrélation entre le Hamas et entre guillemets les Arabes.
Oh bah.
Non, vraiment. Enfin, je veux
mais
dire, lisez
sous-entendu.
Le Monde.
Bah, ça dépend qui t'écoute et ça dépend ce que tu veux lire entre les lignes aussi parfois, tu vois. Et c'est aussi ça, tu vois. Enfin, excuse-moi, on est en train de te couper la parole. Ça.
Non. C'est aussi une question d'information et de ce que vous lisez, de ce que vous écoutez. Enfin, franchement, je suis désolée, mais moi, j'ai jamais entendu ça depuis le début. Hein.
Moi, je note que la manière dont aujourd'hui on parle de voilà, ce sont des vermines, ce sont des Palestiniens, machin, c'est des animaux, enfin voilà. Et ces termes-là de maintenant,
tu fais référence à une phrase prononcée par le ministre de la Défense du gouvernement de Benjamin Netanyahu.
Moi, ça me fait aussi penser au fameux communiqué d'alliance pendant les révoltes de banlieue où il parlait de vermines. Quand tu commences à animaliser, et il se trouve que là, dans les
bien
deux
sûr.
Cas, c'est les mêmes qui
bien
sont
sûr,
un peu animalisés, c'est que tu prépares le pire.
Encore une fois, on y reviendra tout à l'heure. Il y avait une deuxième actu de la semaine dont on voulait parler quand même, parce qu'il n'y a pas que ça dans l'actualité. Il y a aussi eu le vote en première lecture à l'Assemblée nationale de la loi sur le plein emploi. Ça avait été promis par Emmanuel Macron dans sa campagne présidentielle. C'est arrivé à échéance là, et dans la foulée est organisée une conférence sociale sur les bas salaires. C'était le seul truc qui avait été promis aux rencontres de Saint-Denis à la fin du mois d'août. Donc là, ça y est, c'est en train de s'organiser. Et les syndicats, les partenaires sociaux du patronat et du salariat vont se rencontrer et commencer à négocier sur les modalités d'augmentation des bas salaires. Mais quoi qu'il en soit, cette loi a été votée. Cette loi a été votée avec l'apport des voix de la droite, qui a réussi à faire passer un amendement central sur lequel ils insistaient énormément. Pour eux, c'était un casus belli. C'était le fait de forcer les allocataires du RSA à fournir un minimum de 15 heures d'activité par semaine pour justifier de la perception de leur allocation. Ça, c'est le truc dont on parle le plus dans cette loi. En plus, du deuxième truc dont on parle beaucoup, c'est la création, donc la naissance en France d'un nouvel opérateur qui s'appelle France Travail et qui va mettre en réseau un certain nombre d'opérateurs déjà existants, les missions locales, les CAF, Pôle emploi, c'est surtout ça que je cherchais, Pôle emploi, etc. Est-ce qu'on peut dire que cette loi, c'est la mise en musique concrète de la promesse d'Emmanuel Macron d'atteindre le plein emploi à marche forcée? Et j'insiste sur le « à marche forcée » qu'il a prononcé, je me souviens, c'est dans son interview au mois de juin dernier, où il a été plus que clair là-dessus. Sacha.
Désolé, c'est difficile de passer d'un sujet à un autre, là.
Je soutiens Sacha là-dedans, c'est-à-dire que vraiment...
C'est compliqué de passer d'un sujet à un autre, on en parlait avant,
je pense qu'on a à peine dit, t'as raison. On a à peine dit un tiers de ce
bah ouais, mais c'est pour ça qu'on a toute une deuxième partie de l'émission qui est consacrée à la continuation de cette discussion.
Et du coup, juste pour revenir sur tout à l'heure, je trouve que les médias ont fait un travail de pédagogie assez extraordinaire sur ce qui se passe depuis samedi, vraiment. Genre, lisez le live du Monde. Écoutez,
live du Monde.
Je sais pas, l'émission de Quotidien de lundi, on en parlait, elle est vraiment super. Il y a aussi des journalistes qu'il faut suivre, genre. Mal Bruno, qui est un grand reporter, qui a été des centaines de fois à Gaza, qui connaît extrêmement bien la situation. Voilà, vraiment, il y a des sources à lire et qui sont incontournables sur cet événement.
On n'a pas parlé du RN.
Les salaires.
On va pas en parler avec les invités après du RN.
Mais on peut en parler si tu veux parler du RN, vas-y, je t'en prie. je veux pas t'empêcher de parler du RN.
On est en train de faire un putsch contre ouais. Jean là.
Non mais attendez, moi je veux forcer absolument personne.
Pourquoi j'ai envie de putcher? Puis je pense que tu vas être d'accord avec moi. On est dans un moment où en fait ce débat-là, il n'est pas secondaire. Il est en train de reconfigurer un petit peu le débat public. On le voit sur comment les uns sont exclus du débat et comment les autres se raccrochent au wagon, là, et je pense au RN. Et je trouvais ça très signifiant dans le virage à droite qu'est en train de faire ce pays-là. Qu'est-ce que tu penses, toi, quand tu as le RN qui se pointe en manif quand t'as le RN qui maintenant se vend comme le meilleur ami des Juifs, moi ça me fait péter un câble, quoi.
Moi je suis effarée. Ça me terrifie. On en a parlé quand on a préparé cette émission et on s'est dit effectivement le vote de la communauté juive en France suit depuis quelques années déjà le vote RN de la population globale. Moi j'ai juste peur que à force de discours ultra lisses, qu'à force de voilà, il y a pas, il y a, enfin, ça me fait extrêmement mal de le dire, mais Marine Le Pen a très bien parlé ces derniers jours. Et voilà.
Sur quoi tu mets
sur le conflit.
Mais très bien,
c'est samedi.
Au sens c'est-à-dire de posément, avec hauteur, avec gravité.
Avec beaucoup de hauteur, avec beaucoup de gravité. Je pense qu'elle a réussi à rassurer, entre guillemets, la communauté juive de France qu'il y avait une dénonciation totale et absolue de ces actes terroristes par le Rassemblement national.
Ah oui, je vois ce que tu veux dire, d'accord. Et c'est quelque chose qui a pu convenir, bah, voire convaincre.
T'es sûr? En fait, il faut aussi un peu comprendre dans quel esprit les Juifs de France sont. C'est que depuis le début du conflit, il y a eu plus de 100 actes antisémites. En 5 jours.
En 5 jours, là, ouais, en voilà. France.
Uniquement en France. Et c'est une population qui, de manière assez globale et quotidienne, a peur.
Pour
sa sécurité, etc. etc. Et je pense que le langage, le vocabulaire et l'approche du Rassemblement national sur cette question-là est, entre guillemets, la bonne, parce qu'elle est calme, parce qu'il n'y a pas de tortillage des fesses, pour parler un peu brutalement. Et c'est terrifiant parce que c'est un parti qui a été fondé par des SS, parce que c'est un parti qui n'a jamais caché ses origines antisémites. C'est un parti
qui a très souvent été pro-palestinien à sa manière,
qui a soutenu le GUD et le GUD. Et un des plus grands soutiens du Hamas, ouais. Parce que Jean-Marie Le Pen a été condamné par négationnisme. Et pareil, il y a des juifs qui sont aussi tentés par Zemmour. Zemmour a fait plus de 50% parmi les Israéliens de France, en 2022. Voilà.
Netanyahou aussi a été un grand soutien du Hamas. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, extrême droite retrouve extrême droite, quoi. C'est-à-dire qu'évidemment, attiser les tensions et quand... Vous voyez, je parlais du « nous » et du « eux », Marine Le Pen.
Alors,
dit,
juste,
maintenant,
on,
vous êtes
on
dans
dit,
le « nous ».
Comment ça, le GUT soutient le Hamas ?
Alors ça, on va peut-être l'expliquer, effectivement. Il y a peut-être des gens qui sont en train d'halluciner en disant « Comment ça, les fachos, ils soutiennent les barbus ?»
Alors, les,
En fait,
dans le oui. GUT a deux détestations.
Le
et
GUT.
La toute première, c'est les Juifs. Et après, c'est les Arabes. Mais les Juifs, ça passe au-dessus quand même.
Le oui, GUD, attends, je vais préciser encore une fois. Le GUD, c'est le groupe Union Défense, ou groupement Union Défense, je ne sais plus. C'est une formation militante d'extrême droite historique en France. Vous avez probablement entendu l'expression les GUDards. Ce sont des miliciens, des fascistes, qui, notamment autour des universités et des universités de droit, pendant des décennies, a mené la bataille culturelle, et puis la bataille dans la rue, hein, assez clairement, à coup de godasse et à coup de poing, contre les cocos, contre les juifs, contre les arabes. Ce sont des fascistes classiques, le GUD. Le GUD a un petit peu perdu de sa superbe au fur et à mesure de la montée d'un nouveau mouvement qui s'appelle Génération Identitaire, qui est avec le bloc identitaire, etc. Mais le GUD continue à maintenir de forts réseaux et de forts liens avec le Rassemblement National.
Oui. Ils fournissent des attachés parlementaires.
Ouais. Et voilà, donc c'est aussi une école de formation, de la même manière que toute formation militante d'étudiante peut participer à la formation d'une élite militante et dirigeante de mouvements politiques. Le GUD joue son rôle en fournissant effectivement du petit jeune bien coiffé en costard-cravate pour qui a besoin d'un instant parlementaire d'extrême droite. Le GUD, effectivement, ça peut vous surprendre, mais Jean-Marie Le Pen, virgule, le GUD, virgule, tout un tas de mouvements fascistes d'extrême droite en France, a pendant très 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 longtemps apporté un soutien clair à la cause palestinienne, entendu selon eux comme une bonne manière de s'en prendre aux juifs. C'est donc par antisémitisme que parfois les fachos ont été prompts à soutenir des terroristes. Oui.
Mais ils le sont toujours, hein, c'est-à-dire que l'extrême droite, tendance Action Française, Rivarol, etc.
Voilà.
Jérôme Bourbon de Rivarol le dit c'est lui-même, dit, oui, je préfère les Arabes aux Juifs, parce que l'antisémitisme est trop fort chez ces gens-là. Tu vois.
Exactement. Dans la hiérarchie de la haine, quand l'antisémitisme est plus important que le racisme ou la xénophobie,
alors,
puis on revient
et là, on en arrive,
préférer n'importe qui aux Juifs.
On en arrive au point intéressant qui est... Et alors Jean-Marie Le Pen. Non, mais même Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, ce qui est très intéressant, c'est que lui, qui vient de cette vieille extrême droite. Alors pourquoi il déteste les Juifs ? C'est parce que pour eux, le Juif est un corps étranger à l'intérieur de la nation, de la vraie nation enracinée. Le
Au
Juif,
sens culturel et ethnique. Ouais.
Oui, oui, oui. Le Juif, ce peuple sans terre, ne peut pas être fidèle du coup au pays parce que il est international en fait. Donc il est d'où mondialiste. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il en reste dans le vocabulaire politique de Marine Le Pen, c'est le mot mondialiste. Avant, on aurait dit cosmopolite. Mais c'est la même chose.
Donc c'est antisémite. Hein,
c'est antisémite.
Clairement.
Ça a des origines antisémites. C'est très clair. Donc à la base. Le Pen, c'est ça. Et puis, y a la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils se font discrets après la Seconde Guerre mondiale. Tous ces gens-là, il vaut mieux, pour un certain temps en tout cas, ils mettent un peu de temps à se reconfigurer. Et le coup de génie de Le Pen, après la guerre d'Algérie, c'est de se dire, faut que je switch sur les Arabes. Mais vraiment, c'est payant électoralement. La guerre d'Algérie, elle a été difficile. Ça va marcher. Et ça marche. Alors, le fait est qu'une fois, on avait interrogé, il y a je ne sais plus quel journaliste qui avait interrogé son ex-femme, vous savez, celle avec laquelle il s'était brouillé, je ne sais plus comment elle s'appelait.
Qui lui avait volé son œil.
Janine,
je crois.
Janine Le Pen.
Celle qui avait posé dans Playboy.
Et qui lui avait volé son œil de verre, non ?
Oui, et puis elle lui voulait. Voilà, là, il dit qu'elle voulait de la thune et il lui avait dit qu'elle fasse des ménages si elle veut de la thune. Et elle a dit, du coup, elle a posé en femme de ménage à poil dans Playboy pour l'emmerder. Mais elle a aussi dit, quand le journaliste lui demandait. Janine, c'est celle d'après. Pierrette Le Pen, le soir, il casse des Arabes dans la discussion quand vous l'avez à table. Il dit non, ce serait plutôt des Juifs. C'est-à-dire que voilà, il y a une résurgence, il y a un truc qui est de la vieille extrême droite et il a jamais pu s'empêcher les jeux de mots sur les camps de concentration, enfin les trucs ignobles, les trucs révisionnistes, les trucs négationnistes, c'est de son ADN. Marine Le Pen comprend qu'il faut arrêter avec ça. Faut arrêter, ça nous disqualifie. L'avenir de l'extrême droite, c'est la haine des Arabes, c'est les musulmans. Et alors là, bon, voilà, et on en est dans cette situation-là où on joue le juif contre le musulman sans aucun scrupule. Je veux dire, c'est dit, c'est théorisé. Dans leur formation, ils se le disent. Mollo sur les juifs, on cache ça. Ils ont des antisémites. Ils en ont quand même, ils en ont même envoyé à l'Assemblée, notamment un mec qui a une librairie antisémite.
Ah oui ?
Oui, bien sûr.
Il y a quelqu'un
dans le chat qui demandait pourquoi est-ce qu'on reparle de Jean-Marie Le Pen en 2023. Parce qu'il faut que vous compreniez d'où ça vient l'extrême droite. C'est pas né avec Marine Le Pen, c'est pas récent l'extrême droite, ça a une histoire. Et et qu'aujourd'hui, nous, quand on analyse sur ce plateau des changements de ton, ça nous intéresse de vous rappeler que pendant très longtemps, l'extrême droite était très radicalement anti-israélienne. Il se trouve que là, Marine Le Pen a fait un switch à 180 degrés, et ce n'est pas la première fois que Marine Le Pen fait des switches à 180 degrés sur des sujets géopolitiques. Hashtag la Russie, Marine Le Pen a apporté son soutien total à Israël, qui a le droit de se défendre contre ces terroristes, etc., machin.
Et en même temps,
quand on connaît un peu la politique, ça doit vous faire réagir d'entendre ça. C'est pour ça qu'on le fait sur ce plateau.
Fut un temps où les Juifs étaient très très proches, les Juifs de France, très très proches des, justement des forces républicaines. Contre lesquels était l'extrême droite, évidemment. Je parlerai même pas de tous les juifs dans le mouvement trotskiste, dans les mouvements communistes, etc. Donc voilà, il y a aussi.
Ah bah évidemment, c'était le judéo-bolchévique, l'ennemi absolu. C'était
évidemment, à l'époque, on disait les judéo-bolchéviques, t'es juif, t'es communiste. C'est logique, si t'as pas d'État, t'es internationaliste. Et on le retrouve.
Les apatrides et tout.
Dans le mouvement trotskiste, on retrouve énormément de juifs parce que.
Un jour, il faudra qu'on fasse probablement une. Alors moi, je vous ai recommandé sur Twitter aujourd'hui une formidable série documentaire sur Arte sur l'histoire de l'antisémitisme. Il y a à peu près 2000 ans d'histoire de l'antisémitisme où tout ce qu'on est en train de dire, en fait, vous le retrouvez dans ce documentaire. Je voudrais pas qu'on switch et qu'on fasse la pause avant de recevoir nos invités dans la deuxième partie de l'émission, sans parler aussi des difficultés qu'il y a eu à gauche, où un certain nombre de voix se sont exprimées pour critiquer la prise de position, ou l'absence de prise de position, ou la prise de mauvaise position par la France insoumise.
Je voulais terminer sur ma continuité historique, qui est que...
ça fait deux fois, mec. Vas-y, en vrai, continue, t'as raison. Non, mais vas-y.
Pour aller au bout de l'idée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour l'extrême droite, au contraire, Israël représente le nationalisme et la surenchère sécuritaire, l'escalade sécuritaire permanente. C'est ça aussi que ça représente. Pour eux, ça représente l'Occident. Ils changeront d'avis, ils redéfiniront le périmètre de ce qui leur va comme Occident, comme ils l'ont fait jadis. Est-ce qu'ils pensaient que les Slaves étaient des Blancs? C'est pas dit, etc. Ça se discute. Mais bon, ils savent eux où ils vont, en tout cas. Et ils savent qu'en défendant le bombardement de Gaza, peu importe les conséquences, etc., ils savent que, dans leur tête, ils défendent l'Occident. Cet Occident auquel ils vont adjoindre des alliés de circonstance. Bon, en l'occurrence, c'est les Juifs pour l'instant. C'est les Juifs d'Israël. Et donc ceux de France dont ils vont essayer de gagner le vote. Et ça passe. Aujourd'hui, ça passe.
Et ça passe.
Ils ne sont pas chassés des manifs.
Comme l'a rappelé Sacha, il y a
des évolutions. En 2015, Marine Le Pen n'avait pas le droit d'aller à la marche. De la marche après les attentats.
Le 11
janvier. Le Pen n'était pas invité.
C'était le fameux vous n'avez pas honte.
Vous n'avez pas honte.
Vous n'avez pas honte.
De feu Jean-Pierre Elkabbach.
Elle se serait fait dégager. C'est plus le cas.
Zemmour s'est un peu fait dégager, je crois, mais c'était.
Apparemment, c'était compliqué, Zemmour, oui, effectivement. La France insoumise.
Oui.
La France insoumise, en l'occurrence, on a vu des prises de position énervées de la part d'autres responsables de gauche, faisant part de leur émotion, voire même de leur franche colère, quant à ce qu'ils reprochent être une ambiguïté de la France insoumise sur la thématique de l'attaque terroriste du Hamas. On reproche, quand je dis on, de qui je parle, je parle de Jérôme Guedj, je parle de.
Macron a fait des allusions.
Emmanuel Macron a fait une allusion, effectivement.
Même Ruffin. Ruffin,
et je parle surtout de François Ruffin, qui, dans une interview au Monde, a reproché grosso merdo aux dirigeants de la France insoumise de ne pas être au niveau qu'il faudrait être celui d'un grand parti comme la France insoumise sur un sujet comme celui-là. Sacha, qu'est-ce que tu en as pensé de cette séquence ?
Moi, je pense qu'il y a un temps pour tout et qu'il y avait un temps pour dénoncer et de dire que c'était une attaque terroriste et qu'il y avait un temps pour revenir sur le contexte global qui ne doit pas être oublié dans cette situation. Et je pense que LFI a été trop rapide en mélangeant les deux et que du coup, ils ont fait une grosse faute. Une grosse faute qui va leur être reprochée.
Dans
qui
le
leur
tempo,
a été
du
reprochée.
Coup.
Exactement.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Qui va les diaboliser. Après, la question de LFI antisémite, LFI pas antisémite. Moi, je ne sais pas si je m'y plongerai parce que ce n'est pas fondamentalement ce que je pense. Mais voilà, je pense qu'il y a eu une erreur de timing, une grosse, grosse erreur de timing. Et surtout, ils ont été incapables de changer la ligne de pensée.
Ça, comme d'hab.
Mais vraiment,
peu importe le sujet quand ils sont sur un truc.
C'est incroyable.
Mais si pourtant, au dernier congrès... Ah ben non. Oh, ça va.
Non, mais je veux dire, Jules le développera plus mieux que moi, je pense, mais qu'on reste aligné sur une doctrine politique, why not ? Mais je pense qu'il y a des moments où on a le droit de s'en écarter un petit peu. Et je pense que c'était le moment de s'écarter de cette ligne qui, bon, pas qui prenait la paix parce qu'il fallait prendre la paix, mais qui voulait plutôt dire que, enfin, dire que le Hamas a fait un crime de guerre, en fait, c'est institutionnaliser le Hamas. Alors, ok, le Hamas a été élu démocratiquement en 2006. Dans la bande de Gaza. Il a pris le pouvoir totalement de manière extrêmement violente en 2007 ouais. Et il est au pouvoir depuis 2007. Le Hamas, c'est un...
Uniquement dans la bande de Gaza.
Uniquement dans la bande de Gaza. En Cisjordanie, c'est une autre autorité qui règne. Mais le Hamas, c'est un mouvement terroriste qui sème la terreur au sein de la bande de Gaza, qui a semé la corruption, enfin... Qui a des bisbilles avec l'Iran qui sont absolument pas claires et pas nettes. Et voilà, il y avait des mots à dire et les filles n'ont pas du tout été à la hauteur, du rendez-vous, entre guillemets, vraiment.
Usul, sur un mot là-dessus et ensuite on fera la pause pour enchaîner sur la deuxième partie de l'émission. Sur les problématiques que la gauche est en train de vivre depuis quelques années, est-ce que tu rejoins l'analyse de Sacha qui est de dire qu'il y a un temps pour tout? La France insoumise a manqué de tact et de tempo.
Je sais pas, il y a aussi un temps pour tenir tête, parce que quand il y a, comme moi, ce dont j'ai l'impression, un moment de flash où tout le monde arrête de penser, certains peuvent au contraire s'honorer à se dire « Attendez, je ne vais pas répondre directement aux injonctions, je vais essayer de continuer à réfléchir au truc. Est-ce que dire crime de guerre plutôt que de dire terrorisme, ça devrait disqualifier ?» peut-être dans l'émotion du moment, il fallait absolument dire terrorisme, peut-être, mais moi je trouve que crime de guerre, ça se défend tout à fait. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, et les insoumis ne sont pas les seuls, il y a plein d'autres qui disent oui, ça c'est du crime de guerre. On n'est pas sur trois mecs avec une calache, on est sur un truc à grande échelle avec des.
Je ne m'étais même pas posé la question en fait avant, tu vois, qu'on dise crime de guerre, terroriste, j'avoue, je ne sais pas, dans ma hiérarchie perso, je ne m'étais jamais posé cette question.
Il y a une différence et je pense que c'est pas des crimes de guerre parce qu'il y a une volonté à travers notamment tout ce qui est films des exactions qui ont été réalisées de semer la terreur, et je pense qu'on rentre vraiment dans le cadre entier et total du terrorisme.
On sort d'un cadre de guerre et qu'on rentre dans le cadre du terrorisme. Voilà.
Tous les médias titrent guerre. Hamas.
Parce que la guerre a été déclarée par Israël.
Il y a une guerre qui a été.
Donc c'est une guerre. Déclarée. Mais bon, voilà. Après, on va rentrer dans. Oui, en fait, moi, j'ai pas envie de rentrer dans des trucs parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est la criminalisation des mots là. Le procureur, les dissolutions prévues du NPA, voilà, toutes ces disqualifications. Moi, c'est ce moment de flash autoritaire là qu'on est en train de vivre, de dire vous devez penser, vous devez dire ça, vous devez dire tel mot, machin. Qui me fait très peur pour la suite.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Parce que je rappelle qu'en 2001, il y a le 11 septembre et que le pays n'est pas encore aussi. 2015, c'est déjà plus dur.
Chers amis.
Il faut. Voilà. Mais on là, va continuer. La mue est très avancée dans l'autoritarisme et dans le. Voilà. Et dans le racisme, il faut dire aussi les mots. C'est-à-dire, tant que c'est sur les Arabes et les musulmans.
On va continuer ces échanges dans la deuxième partie de l'émission. Je vous rappelle cette émission n'est rendue possible que par vous. Continuez à participer au financement de Backseat. Backseat, c'est une équipe d'une vingtaine de professionnels qui travaillent tant sur l'éditorial que sur la technique. Leur salaire dépend de vous. Leur salaire dépend de vos dons. Rendez-vous sur KissKissBankBank pour faire progresser la barre de dons ici présente. Vous la retrouverez également le lien dans la description de cette vidéo YouTube. Chers amis, on va marquer une petite pause. Et juste après cette pause, on va retrouver trois invités que je remercie d'avance du fond du cœur d'avoir accepté de venir parler avec nous de ce sujet extrêmement difficile. Anna Assouline, qui est la fondatrice de l'association Les Guerrières de la Paix et qui revient d'un séjour en Israël, elle y était encore vendredi dernier. Raphaël M. Salem, qui est responsable d'études pour le think tank Génération Libre, il sera avec nous. Il vient de publier une tribune sur l'antisionisme et l'antisémitisme. Et nous serons rejoints ensuite dans une deuxième partie par Karim Katan, qui est un écrivain palestinien, auteur d'une tribune dans Le Monde, titrée « Dans la tourmente qui ne fait que commencer, nous devons faire preuve de cœur et de hauteur d'esprit ». Chers amis, ces trois invités de grande qualité seront avec nous en direct sur ce plateau, juste après une petite pause. À tout de suite après la pause. We'll be right back.